Locke, traité du gouvernement civil, chapitre 9 à 11. Chapitre 9. Des fins de la société politique et du gouvernement. 123. Si l'homme, dans l'état de nature, est aussi libre que j'ai dit, s'il est le seigneur absolu de sa personne et de ses possessions, égal au plus grand et sujet à personne. Pourquoi se dépouille-t-il de sa liberté et de cet empire? Pourquoi se soumet-il à la domination et à l'inspection de quelque autre pouvoir? Il est aisé de répondre qu'encore que, dans l'état de nature, l'homme ait un droit, tel que nous l'avons posé, la jouissance de ce droit est pourtant fort incertaine et exposé sans cesse à l'invasion d'autrui. Car, tous les hommes étant rois, tous étant égaux, et la plupart peu exacts observateurs de l'équité et de la justice, la jouissance d'un bien propre, dans cet état, est mal assurée et ne peut guère être tranquille. C'est ce qui oblige les hommes de quitter cette condition, laquelle, quelque libre qu'elle soit, est pleine de craintes et exposée à de continuels dangers. Et cela fait voir que ce n'est pas sans raison qu'ils recherchent la société et qu'ils souhaitent de se joindre avec d'autres qui sont déjà unis ou qui ont dessein de s'unir et de composer un corps pour la conservation mutuelle de leur vie, de leur liberté et de leurs biens, chose que j'appelle d'un nom général propriété. 124. C'est pourquoi la plus grande et la principale fin que se proposent les hommes, lorsqu'ils s'unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c'est de conserver leurs propriétés, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l'état de nature. Premièrement, il y manque des lois établies, connues, reçues et approuvées d'un commun consentement, qui soient comme l'étendard du droit et du tort, de la justice et de l'injustice, et comme une commune mesure capable de terminer les différends qui s'élèveraient. Car, bien que les lois de la nature soient claires et intelligibles à toutes les créatures raisonnables, cependant, les hommes, étant poussés par l'intérêt aussi bien qu'ignorants à l'égard de ces lois, faute de les étudier, ils ne sont guère disposés, lorsqu'il s'agit de quelque cas particulier qui les concerne, à considérer les lois de la nature comme des choses qu'ils sont étroitement obligés d'observer. 125. En second lieu, dans l'état de nature, il manque un juge reconnu, qui ne soit pas partial et qui ait l'autorité de terminer tous les différends, conformément aux lois établies. Car, dans cet état-là, chacun étant juge et revêtu du pouvoir de faire exécuter les lois de la nature et d'en punir les infracteurs, et les hommes étant partiaux, principalement lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes et de leurs intérêts, la passion et la vengeance sont fort propres à les porter bien loin, à les jeter dans de funestes extrémités et à leur faire commettre bien des injustices. Ils sont fort ardents lorsqu'il s'agit de ce qui les regarde, mais fort négligents et fort froids lorsqu'il s'agit de ce qui concerne les autres, ce qui est la source d'une infinité d'injustices et de désordres. 126. En troisième lieu, dans l'état de nature, il manque ordinairement un pouvoir qui soit capable d'appuyer et de soutenir une sentence donnée et de l'exécuter. Ceux qui ont commis quelque crime emploient d'abord, lorsqu'ils peuvent, la force pour soutenir leur injustice, et la résistance qu'ils font rend quelquefois la punition dangereuse et mortelle même à ceux qui entreprennent de la faire. 127. Ainsi, les hommes, nonobstant tous les privilèges de l'état de nature, ne laissant pas d'être dans une fort fâcheuse condition, tandis qu'ils demeurent dans cet état-là, sont vivement poussés à vivre en société. De là vient que nous voyons rarement qu'un certain nombre de gens vivent quelque temps ensemble en cet état. Les inconvénients auxquels ils s'y trouvent exposés par l'exercice irrégulier et incertain du pouvoir que chacun a de punir les crimes des autres, les contraignent de chercher dans les lois établies d'un gouvernement un asile et la conservation de leurs propriétés. C'est cela précisément qui porte chacun à se défaire de si bon cœur du pouvoir qu'il a de punir, à en commettre l'exercice à celui qui a été élu et destiné pour l'exercer, et à se soumettre à ces règlements que la communauté ou ceux qui ont été autorisés par elle auront trouvé bon de faire. Et voilà proprement le droit original et la source et du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, aussi bien que des sociétés et des gouvernements même. 128. Car, dans l'état de nature, un homme, outre la liberté de jouir des plaisirs innocents, a deux sortes de pouvoirs. Le premier est de faire tout ce qu'il trouve à propos pour sa conservation et pour la conservation des autres, suivant l'esprit et la permission des lois de la nature, par lesquelles lois, communes à tous, lui et les autres hommes, font une communauté, composent une société qui les distingue du reste des créatures. Et, si ce n'était la corruption des gens dépravés, on n'aurait besoin d'aucune autre société. Il ne serait point nécessaire que les hommes se séparassent et abandonnassent la communauté naturelle pour en composer de plus petites. L'autre pouvoir qu'un homme a dans l'état de nature, c'est de punir les crimes commis contre les lois. Or, il se dépouille de l'un et de l'autre lorsqu'il se joint à une société particulière et politique, lorsqu'il s'incorpore dans une communauté distincte de celle du reste du genre humain. 129. Le premier pouvoir, qui est de faire tout ce qu'on juge à propos pour sa propre conservation, et pour la conservation du reste des hommes, on s'en dépouille, afin qu'il soit réglé et administré par les lois de la société, de la manière que la conservation de celui qui vient à s'en dépouiller et de tous les autres membres de cette société le requiert. Et ces lois de la société resserrent en plusieurs choses la liberté qu'on a par les lois de la nature. 130. On se défait aussi de l'autre pouvoir qui consiste à punir, et l'on engage toute sa force naturelle qu'on pouvait auparavant employer, de son autorité seule, pour faire exécuter les lois de la nature, comme on le trouvait bon. On se dépouille, dis-je, de ce second pouvoir et de cette force naturelle pour assister et fortifier le pouvoir exécutif d'une société selon que ses lois le demandent. Car un homme, étant alors dans un nouvel état dans lequel il jouit des commodités et des avantages du travail, de l'assistance et de la société des autres qui sont dans la même communauté, aussi bien que de la protection de l'entière puissance du corps politique, est obligé de se dépouiller de la liberté naturelle qu'il avait de songer et pourvoir à lui-même. Oui, il est obligé de s'en dépouiller autant que le bien, la prospérité et la sûreté de la société à laquelle il s'est joint le requièrent. Cela est non seulement nécessaire, mais juste, puisque les autres membres de la société font la même chose. 131. Cependant, quoique ceux qui entrent dans une société remettent l'égalité, la liberté et le pouvoir qu'ils avaient dans l'état de nature entre les mains de la société, afin que l'autorité législative en dispose de la manière qu'elle trouvera bon et que le bien de la société requerra, ces gens-là, néanmoins, en remettant ainsi leurs privilèges naturels, n'ayant d'autre intention que de pouvoir mieux conserver leur personne, leur liberté, leur propriété, car enfin, on ne saurait supposer que des créatures raisonnables changent leurs conditions dans l'intention d'en avoir une plus mauvaise. Le pouvoir de la société ou de l'autorité législative établie par eux ne peut jamais être supposé devoir s'étendre plus loin que le bien public ne le demande. Ce pouvoir doit se réduire à mettre en sûreté et à conserver les propriétés de chacun en remédiant aux trois défauts dont il a été fait mention ci-dessus et qui rendaient l'état de nature si dangereux et si incommode. Ainsi, qui que ce soit qui a le pouvoir législatif ou souverain d'une communauté est obligé de gouverner suivant les lois établies et connues du peuple, non par des décrets arbitraires et formés sur le champ, d'établir des juges désintéressés et équitables qui décident les différends par ces lois, d'employer les forces de la communauté au-dedans seulement pour faire exécuter ces lois ou au-dehors pour prévenir ou réprimer les injures étrangères, mettre la communauté à couvert des courses et des invasions, et en tout cela, de ne se proposer d'autre fin que la tranquillité, la sûreté, le bien du peuple. Chapitre 10. Des diverses formes de société politique. 132. Le plus grand nombre, comme il a déjà été prouvé, ayant, parmi ceux qui sont unis en société, le pouvoir entier du corps politique, peut employer ce pouvoir à faire des lois de temps en temps pour la communauté et à faire exécuter ces lois par des officiers destinés à cela par ce plus grand nombre. Et alors, la forme du gouvernement est une véritable démocratie. Il peut aussi remettre entre les mains de peu de personnes choisies et de leurs héritiers ou successeurs le pouvoir de faire des lois. Alors c'est une oligarchie. Ou le remettre entre les mains d'un seul, et c'est une monarchie. Si le pouvoir est remis entre les mains d'un seul et de ses héritiers, c'est une monarchie héréditaire. S'il lui est commis seulement à vie, et à condition qu'après sa mort, le pouvoir retournera à ceux qui le lui ont confié et qui lui nommeront un successeur, c'est une monarchie élective. Toute société qui se forme a la liberté d'établir un gouvernement tel qu'il lui plaît, de le combiner et de le mêler de différentes sortes que nous venons de marquer, comme elle juge à propos. Que si le pouvoir législatif a été donné par le plus grand nombre à une personne ou à plusieurs, seulement à vie ou pour un temps autrement limité, quand ce temps-là est fini, le pouvoir souverain retourne à la société. Et, quand il y est retourné de cette manière, la société en peut disposer comme il lui plaît et le remettre entre les mains de ceux qu'elle trouve bon, et ainsi établir une nouvelle forme de gouvernement. 133. Par une communauté ou un État, il ne faut donc point entendre ni une démocratie, ni aucune autre forme précise de gouvernement, mais bien, en général, une société indépendante, que les Latins ont très bien désignée par le mot « civitas », et qu'aucun mot de notre langue ne saurait mieux exprimer que celui d'État. Chapitre 11. de l'étendue du pouvoir législatif. 134. La grande fin que se proposent ceux qui entrent dans une société étant de jouir de leur propriété en sûreté et en repos. Et le meilleur moyen qu'on puisse employer par rapport à cette fin étant d'établir des lois dans cette société, la première et fondamentale loi positive de tous les États, c'est celle qui établit le pouvoir législatif, lequel, aussi bien que les lois fondamentales de la nature, doit tendre à conserver la société, et autant que le bien public le peut permettre, chaque membre et chaque personne qui la compose. Ce pouvoir législatif n'est pas seulement le suprême pouvoir de l'État, mais encore est sacré, et ne peut être ravi à ceux à qui il a été une fois remis. Il n'y a point d'édit de qui que ce soit, et de quelque manière qu'il soit conçu, ou par quelque pouvoir qu'il soit appuyé, qui soit légitime et ait force de loi, s'il n'a été fait et donné par cette autorité législative que la société a choisie et établie. Sans cela, une loi ne saurait avoir ce qui est absolument nécessaire à une loi, savoir le consentement de la société, à laquelle nul n'est en droit de proposer des lois à observer qu'en vertu du consentement de cette société et en conséquence du pouvoir qu'il a reçu d'elle. C'est pourquoi toute la plus grande obligation où l'on puisse être de témoigner de l'obéissance n'est fondée que sur ce pouvoir suprême qui a été remis à certaines personnes et sur ces lois qui ont été faites par ce pouvoir. De même, aucun serment prêté à un pouvoir étranger quel qu'il soit, ni aucun pouvoir domestique ou subordonné ne peuvent décharger aucun membre de l'État de l'obéissance qui est due au pouvoir législatif, qui agit conformément à l'autorité qui lui a été donnée, ni l'obliger à faire aucune démarche contraire à ce que ces lois prescrivent, étant ridicule de s'imaginer que quelqu'un pût être obligé en dernier ressort d'obéir au pouvoir d'une société, lequel ne serait pas suprême. 135. Quoique le pouvoir législatif, soit qu'on l'ait remis à une seule personne ou à plusieurs, pour toujours ou seulement pour un temps et par intervalle, soit le suprême pouvoir d'un État, cependant, il n'est premièrement et ne peut être absolument arbitraire sur la vie et les biens du peuple, car ce pouvoir n'étant autre chose que le pouvoir de chaque membre de la société, remis à cette personne ou à cette assemblée, qui est le législateur, ne saurait être plus grand que celui que toutes ces différentes personnes avaient dans l'état de nature avant qu'ils entrassent en société et eussent remis leur pouvoir à la communauté qu'ils formèrent ensuite. Car, enfin, personne ne peut conférer à un autre plus de pouvoir qu'il n'en a lui-même. Or, personne n'a un pouvoir absolu et arbitraire sur soi-même ou sur un autre pour s'ôter la vie, ou pour la ravir à qui que ce soit, ou lui ravir aucun bien qui lui appartienne en propre. Un homme, ainsi qu'il a été prouvé, ne peut se soumettre au pouvoir arbitraire d'un autre, et dans l'état de nature, n'ayant point un pouvoir arbitraire sur la vie, sur la liberté, ou sur les possessions d'autrui, mais son pouvoir s'étendant seulement jusqu'où les lois de la nature le lui permettent, pour la conservation de sa personne et pour la conservation du reste du genre humain, c'est tout ce qu'il donne et qu'il peut donner à une société, et par ce moyen au pouvoir législatif, en sorte que le pouvoir législatif ne saurait s'étendre plus loin. Selon sa véritable nature et ses véritables engagements, il doit se terminer au bien public de la société. C'est un pouvoir qui n'a pour fin que la conservation et qui par conséquent ne saurait jamais avoir droit de détruire, de rendre esclave ou d'appauvrir à dessein aucun sujet. Les obligations des lois de la nature ne cessent point dans la société. Elles y deviennent même plus fortes en plusieurs cas. Et les peines qui y sont annexées pour contraindre les hommes à les observer sont encore mieux connues par le moyen des lois humaines. Ainsi, les lois de la nature subsistent toujours comme des règles éternelles pour tous les hommes, pour les législateurs aussi bien que pour les autres. S'ils font des lois pour régler les actions des membres de l'État, elles doivent être aussi faites pour les leurs propres et doivent être conformes à celles de la nature, c'est-à-dire à la volonté de Dieu dont elles sont la déclaration. Et la loi fondamentale de la nature ayant pour objet la conservation du genre humain, il n'y a aucun décret humain qui puisse être bon et valable lorsqu'il est contraire à cette loi. 136. En second lieu, l'autorité législative ou suprême n'a point droit d'agir par des décrets arbitraires et formés sur le champ, mais est tenue de dispenser la justice et de décider des droits des sujets par les lois publiées et établies et par des juges connus et autorisés. Car les lois de la nature n'étant point écrites et par conséquent ne pouvant se trouver que dans le cœur des hommes, il peut arriver que, par passion ou par intérêt, ils en fassent un très mauvais usage, les expliquent et les appliquent mal, et qu'il soit difficile de les convaincre de leur erreur et de leur injustice, s'il n'y a point de juge établi. Chacun ne saurait être déterminé comme il faut, ni les propriétés être mises à couvert de la violence, chacun se trouvant alors juge, interprète et exécuteur dans sa propre cause. Celui qui a le droit de son côté, n'ayant d'ordinaire à employer que son seul pouvoir, n'a pas assez de force pour se défendre contre les injures ou pour punir les malfaiteurs. Afin de remédier à ces inconvénients, qui causent bien du désordre dans les propriétés des particuliers, dans l'état de nature, les hommes s'unissent en société, afin qu'étant ainsi unis, ils aient plus de force et emploient toutes celles de la société pour mettre en sûreté et défendre ce qui leur appartient en propre, et puissent avoir des lois stables par lesquelles les biens propres soient déterminés, et que chacun reconnaisse ce qui est sien. C'est pour cette fin que les hommes remettent à la société dans laquelle ils entrent tout leur pouvoir naturel, et que la communauté remet le pouvoir législatif entre les mains de ceux qu'elle juge à propos, dans l'assurance qu'ils gouverneront par les lois établies et publiées. Autrement, la paix, le repos et les biens de chacun seraient toujours dans la même incertitude et dans les mêmes dangers qu'ils étaient dans l'état de nature. 137. Un pouvoir arbitraire et absolu, et un gouvernement sans lois établies et stables, ne saurait s'accorder avec les fins de la société et du gouvernement. En effet, les hommes quitteraient-ils la liberté de l'état de nature pour se soumettre à un gouvernement dans lequel leur vie, leur liberté, leur repos, leurs biens ne seraient point en sûreté? On ne saurait supposer qu'ils aient l'intention ni même le droit de donner à un homme ou à plusieurs un pouvoir absolu et arbitraire sur leur personne et sur leurs biens, et de permettre aux magistrats ou au prince de faire à leur égard tout ce qu'il voudra par une volonté arbitraire et sans bornes. Ce serait, assurément, se mettre dans une condition beaucoup plus mauvaise que n'est celle de l'état de nature, dans lequel on a la liberté de défendre son droit contre les injures d'autrui, et de se maintenir, si l'on a assez de force, contre l'invasion d'un homme ou de plusieurs, joints ensemble. En effet, supposant qu'on se soit livré au pouvoir absolu et à la volonté arbitraire d'un législateur, on s'est désarmé soi-même et on a armé ce législateur afin que ceux qui lui sont soumis deviennent sa proie et soient traités comme il lui plaira. Celui-là est dans une condition bien plus fâcheuse qui est exposé au pouvoir arbitraire d'un seul homme qui en commande 100 000 que celui qui est exposé au pouvoir arbitraire de 100 000 hommes particuliers. Personne ne pouvant s'assurer que ce seul homme qui a un tel commandement ait meilleure volonté que non ses autres, quoique sa force et sa puissance soient 100 000 fois plus grandes. Donc, dans tous les États, le pouvoir de ceux qui gouvernent doit être exercé selon des lois publiées et reçues, non par des arrêts faits sur le champ et par des résolutions arbitraires. Car autrement, on se trouverait dans un plus triste et plus dangereux état que n'est l'état de nature, si l'on avait armé du pouvoir réuni de toute multitude une personne ou un certain nombre de personnes, afin qu'elles se fissent obéir selon leur plaisir, sans garder aucune borne, et conformément au décret arbitraire de la première pensée qui leur viendrait, sans avoir jusqu'alors donné à connaître leur volonté, ni observé aucune règle qui puisse justifier leurs actions. Tout le pouvoir d'un gouvernement n'étant établi que pour le bien de la société, comme il ne saurait par cette raison être arbitraire et être exercé suivant le bon plaisir, aussi doit-il être exercé suivant les lois établies et connues, en sorte que le peuple puisse connaître son devoir et être en sûreté à l'ombre de ses lois, et qu'en même temps, les gouverneurs se tiennent dans de justes bornes et ne soient point tentés d'employer le pouvoir qu'ils ont entre les mains pour suivre leurs passions et leurs intérêts, pour faire des choses inconnues et désavantageuses à la société politique, et qu'elle n'aurait garde d'approuver. 138. En troisième lieu, la suprême puissance n'a point le droit de se saisir d'aucune partie des biens propres d'un particulier sans son consentement, car la conservation de ce qui appartient en propre à chacun étant la fin du gouvernement et ce qui engage à entrer en société, ceci suppose nécessairement que les biens propres du peuple doivent être sacrés et inviolables, ou il faudrait supposer que des gens entrant dans une société auraient par là perdu leur droit à ces sortes de biens, quoiqu'ils y fussent entrés dans la vue d'en pouvoir jouir avec plus de sûreté et plus commodément. L'absurdité est si grande qu'il n'y a personne qui ne la sente. Les hommes, donc, possédant dans la société les choses qui appartiennent en propre, ont un si grand droit sur ces choses, qui, par les lois de la communauté, deviennent leurs, que personne ne peut les prendre, ou toute ou une partie, sans leur consentement. En sorte que, si quelqu'un pouvait s'en saisir, dès lors, ce ne serait plus des biens propres. Car, à dire vrai, je ne suis pas le propriétaire de ce qu'un autre est en droit de me prendre quand il lui plaira contre mon consentement. C'est pourquoi c'est une erreur que de croire que le pouvoir suprême ou législatif d'un État puisse faire ce qu'il veut et disposer des biens des sujets d'une manière arbitraire, ou se saisir d'une partie de ses biens comme il lui plaît. Cela n'est pas fort à craindre dans les gouvernements où le pouvoir législatif réside entièrement ou en partie, dans des assemblées qui ne sont pas toujours sur pied, mais composées des mêmes personnes, et dont les membres, après que l'assemblée a été séparée et dissoute, sont sujets aux lois communes de leur pays, tout de même que le reste des citoyens. Mais dans les gouvernements où l'autorité législative réside dans une assemblée stable, ou dans un homme seul, comme dans les monarchies absolues. Il y a toujours à craindre que cette assemblée ou ce monarque ne veuille avoir des intérêts à part et séparés de ceux du reste de la communauté, et qu'ainsi il ne soit disposé à augmenter ses richesses et son pouvoir en prenant au peuple ce qu'il trouvera bon. Ainsi, dans ces sortes de gouvernements, les biens propres ne sont guère en sûreté, car ce qui appartient en propre à un homme n'est guère sûr, encore qu'il soit dans un état où il y a de très bonnes lois capables de terminer, d'une manière juste et équitable, les procès qui peuvent s'élever entre les sujets. Si celui qui gouverne ces sujets-là a le pouvoir de prendre à un particulier de ce qui lui appartient en propre, ce qui lui plaira, et de s'en servir et en disposer comme il jugera à propos. 139. Mais le gouvernement, entre quelques mains qu'il se trouve, étant, comme j'ai déjà dit, confié sous cette condition et pour cette fin, que chacun aura et possédera en sûreté ce qui lui appartient en propre, quelque pouvoir qu'aient ceux qui gouvernent de faire des lois pour régler les biens propres de tous les sujets et terminer entre eux toutes sortes de différends, ils n'ont point droit de se saisir des biens propres d'aucun d'eux, pas même de la moindre partie de ces biens, contre le consentement du propriétaire. Car autrement, ce serait ne leur laisser rien qui leur appartient en propre. Pour nous convaincre que le pouvoir absolu, lors même qu'il est nécessaire de l'exercer, n'est pas néanmoins arbitraire, mais demeure toujours limité par la raison, et terminé par ces mêmes fins qui requièrent, en certaines rencontres, qu'il soit absolu, nous n'avons qu'à considérer ce qui se pratique dans la discipline militaire. La conservation et le salut de l'armée et de tout l'État demandent qu'on obéisse absolument au commandement des officiers supérieurs, et on punit de mort ceux qui ne veulent pas obéir. Quand même, celui qui leur donne quelque ordre serait le plus fâcheux et le plus déraisonnable de tous les hommes, il n'est pas même permis de contester. Et si on le fait, on peut être, avec justice, puni de mort. Cependant, nous voyons qu'un sergent qui peut commander à un soldat de marcher pour aller se mettre devant la bouche d'un canon, ou pour se tenir sur une brèche, où ce soldat est presque assuré de périr, ne peut lui commander de lui donner un sol de son argent. Un général non plus, qui peut condamner un soldat à la mort pour avoir déserté, pour avoir quitté un poste, pour n'avoir pas voulu exécuter quelque ordre infiniment dangereux, pour avoir désobéi tant soit peu, ne peut pourtant, avec tout son pouvoir absolu de vie et de mort, disposer d'un liard du bien de ce soldat, ni se saisir de la moindre partie de ce qui lui appartient en propre. La raison de cela est que cette obéissance aveugle est nécessaire pour la fin pour laquelle un général ou un commandant a reçu un si grand pouvoir, c'est-à-dire pour le salut et l'avantage de l'armée et de l'État, et que disposer d'une manière arbitraire des biens et de l'argent des soldats n'a nul rapport avec cette fin. 140. Il est vrai, d'un autre côté, que les gouvernements ne sauraient subsister sans de grandes dépenses, et par conséquent sans subsides, et qu'il est à propos que ceux qui ont leur part de la protection du gouvernement paient quelque chose et donnent à proportion de leurs biens pour la défense et la conservation de l'État. Mais toujours faut-il avoir le consentement du plus grand nombre des membres de la société qui le donnent, ou bien par eux-mêmes immédiatement, ou bien par ceux qui les représentent et qui ont été choisis par eux. Car si quelqu'un prétendait avoir le pouvoir d'imposer et de lever des taxes sur le peuple de sa propre autorité, et sans le consentement du peuple. Il violerait la loi fondamentale de la propriété des choses et détruirait la fin du gouvernement. En effet, comment me peut appartenir en propre ce qu'un autre a droit de me prendre lorsqu'il lui plaira? 141. En quatrième lieu, l'autorité législative ne peut remettre en d'autres mains le pouvoir de faire des lois, car cette autorité n'étant qu'une autorité confiée par le peuple, ceux qui l'ont reçue n'ont pas droit de la remettre à d'autres. Le peuple seul peut établir la forme de l'État, c'est-à-dire faire résider le pouvoir législatif dans les personnes qu'il lui plaît et de la manière qu'il lui plaît. Et quand le peuple a dit « Nous voulons être soumis aux lois de tels hommes et en telle manière », aucune autre personne n'est en droit de proposer à ce peuple des lois à observer, puisqu'il n'est tenu de se conformer qu'aux règlements faits par ceux qu'il a choisis et autorisés pour cela. 142. Ce sont là les bornes et les restrictions que la confiance d'une société a prises en ceux qui gouvernent, et les lois de Dieu et de la nature ont mis au pouvoir législatif de chaque État quelque forme de gouvernement qui y soit établie. La première restriction est qu'ils gouverneront selon les lois établies et publiées, non par des lois muables et variables, suivant les cas particuliers, qu'il y aura les mêmes règlements pour le riche et pour le pauvre, pour le favori et le courtisan, et pour le bourgeois et le laboureur. La seconde, que ces lois et ces règlements ne doivent tendre qu'au bien public. La troisième, qu'on n'imposera point de taxes sur les biens propres du peuple sans son consentement donné immédiatement par lui-même ou par ses députés. Cela regarde proprement et uniquement ces sortes de gouvernements dans lesquels le pouvoir législatif subsiste toujours et est sur pied sans nulle discontinuation, ou dans lesquels, du moins, le peuple n'a réservé aucune partie de ce pouvoir aux députés qui peuvent être élus, de temps en temps, par lui-même. En quatrième lieu, que le pouvoir législatif ne doit conférer à qui que ce soit le pouvoir de faire des lois, ce pouvoir ne pouvant résider de droit que là où le peuple l'a établi.